les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nous ne savons pas ce qu'est devenu Arsène Lupin après la Seconde Guerre mondiale, s'étonne l'un des membres de la société, mais en est-ce bien une, de la Société des études lupiniennes. Ont-ils un rapport avec le collège de pataphysique, ses amateurs, ses fans, ses grands connaisseurs d'Arsène Lupin? Et si société il y a, y a-t-il un schisme? Qui peut, qui doit passer son temps et ses loisirs à l'exaltation et à la propagation du mythe de Lupin? Chacun est-il libre de prendre la succession des études lupiniennes? La question, apparemment, se posait sur France Culture le 2 avril 1970, un peu moins de 100 ans après la naissance d'Arsène Lupin.
Arcane, nom masculin.
Arsène.
Arcane, terme d'alchimie.
Arsène.
Arcane, opération mystérieuse.
Arsène.
Arcane, étymologiquement arcanus, secret, de arca, coffre.
Arsène Raoul.
Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux.
Lupin, Lupin, Lupin.
Arcane 70, par Roger Pilaudin.
Aujourd'hui, Arcane des études lupiniennes. Un prince anglois, Mars à son cœur de ciel, voudra poursuivre sa fortune prospère. Des deux duels, l'une percera le fiel, aïe de lui, bien-aimé de sa mère.
C'est une prophétie de Nostradamus, et tous les lupiniens auront reconnu là-dedans le schéma, le scénario de L'île aux 30 cercueils, l'un des meilleurs bouquins d'Arsène Lupin. Je commente très brièvement. Le prince anglais, c'est Vorsky. Bien sûr, me dira-t-on, il est plus allemand qu'anglais. Mais les deux familles régnantes à la veille de 1914 cousinaient de très près, vous le savez. Mars a son cœur de ciel. Vorsky est en effet un guerrier, d'où Mars. Il est même doublement guerrier puisqu'il est prisonnier de guerre. Un prince anglais, Mars à son cœur de ciel, voudra poursuivre sa fortune prospère. Je vous rappelle que c'est à la suite d'une prédiction faite par une bohémienne lorsqu'il était enfant que Vorsky débarquera dans l'île en question. Des deux duels, l'une percera le fiel, haïe de lui, bien-aimé de sa mère. C'est là la scène inoubliable dans laquelle Vorsky fait combattre au poignard, les yeux bandés, ses deux fils, et où le fils, haï de lui, bien-aimé de sa mère, triomphera.
Jean-Claude Dinguirard, est-ce que c'est à Toulouse qu'est né ce centre d'études lupiniennes? Qu'est-ce que c'est que les études lupiniennes? Depuis quand existent-elles? Qu'est-ce qui a provoqué leur création?
Je pense que les études lupiniennes existent depuis qu'Arsène Lupin est venu au monde lui-même. Le personnage est tellement fascinant que chacun s'est pris d'enthousiasme pour lui et a voulu mieux le connaître. Ceci dit, Toulouse est peut-être accidentellement le centre où est née la revue des études lupiniennes. Mais il existe une société des études lupiniennes, une société qui tient toute la francophonie dans une espèce de toile d'araignée. Hein? Nous avons en France, bien sûr, des centres régionaux d'études lupiniennes. Le centre parisien, qui est très actif. Le centre cannois, qui est très actif. Le centre normand, bien sûr, cela s'imposait. Et surtout, hors de France, nous avons une section extrêmement importante et active en Belgique.
Mais en dehors de la France et de la Belgique, les études lupiniennes ne se sont pas installées hors d'Europe ou dans d'autres pays d'Europe ?
Nous avons une délégation en Grande-Bretagne, une délégation bicéphale d'ailleurs. La première tête, c'est une tête de pont que nous avons jetée vers la Sherlock Holmes Société, les fanatiques de Sherlock Holmes. Il était indispensable qu'Arsène Lupin fût représenté parmi eux. Une seconde tête de pont est jetée vers les régions d'où se propage la pataphysique dans pays anglo-saxon.
Vous venez de prononcer un mot. Est-ce qu'il faut comprendre que les études lupiniennes font partie des travaux des sous-commissions du collège de pataphysique les... Ou est-ce que je ne soulève pas là un point de doctrine ou de polémique?
Un, voilà, un point de doctrine, oui, et de polémique. Je crois que je peux vous donner lecture de la réponse qui sera primée suite à notre dernier référendum sur la double appartenance aux études lupiniennes et au collège de pataphysique. Voici, je cite la lettre, le Grand Hôtel, 10 avenue de la Libération Saint-Étienne. Monsieur le rédacteur en chef, suite au compte rendu du singulier débat instauré à Frères-en lors du dernier symposium, je dois devoir vous adresser la remarque suivante. Il n'y a pas à craindre que la SEL, la Société des études lupiniennes, devienne une simple annexe du Collège de pataphysique, car elle l'est déjà. C'est du reste le cas de toutes les sociétés humaines, organisées ou inorganisées, de la bergerie béarnaise à la République démocratique allemande, en passant par l'Olympique de Marseille, le Figaro littéraire, le Grand Hôtel de Saint-Étienne, l'Union des écrivains soviétiques et la British Petroleum. Ainsi, toute question, débattue ou non sur ce sujet, trempe un pied dans la vanité, l'autre dans l'impertinence. Et c'est signé Simon Simon.
Qui a été le fondateur de la Société des études lupiniennes, Jean-Claude Denguirard ?
Eh bien, il n'y a pas le moindre doute, c'est notre très regretté Fulbert Anquetil-Turé. Fulbert Anquetil-Turé, normand, comme son nom l'indique, que nous soupçonnons, vu son grand âge, d'avoir connu Arsène Lupin lui-même, et qui est mort tout à fait au début de notre vie, après avoir créé, après avoir jeté les fondements de la société. Fulbert Anquetil-Turé n'a pas pu résister à la joie, et il est mort.
Il a laissé des papiers posthumes.
Oui. Nous avons retrouvé dans ces dossiers quelques notes éparses, difficiles à lire d'ailleurs.
Mais qui jettent des lumières nouvelles sur les études lupiniennes.
Ah oui, absolument. Je songe par exemple à cette généalogie d'Arsène Lupin qui me paraît capitale. Nous apprenons qu'au début étaient les Détioles qui se sont alliés aux Dreux Soubise pour donner Monsieur de Mélamar Saint-Onge, qui a épousé une mademoiselle de Sourdin. Ce couple donna une autre mademoiselle de Mélamar Saint-Onge, qui épousa un Raoul d'Andrézy. Ce nouveau couple donna Henriette d'Andrézy, qui épousa un certain Théophraste Lupin, fils lui-même d'Arsène Lupin. Et Henriette d'Andrézy et Théophraste Lupin, tout le monde le sait, donnèrent Arsène Raoul Lupin, qui lui-même épousa d'abord Clarisse, ou bien Claire d'Étigues, puis Angélique de Sarzeau-Vendôme, puis Raymonde de Saint-Véran, puis, d'un seul coup, cinq veuves africaines, toutes abominables, d'âges divers, le tout sous un nom coranique inconnu, et enfin, Mademoiselle Florence Levasseur. De ces divers mariages, Arsène Raoul Lupin eut d'abord Geneviève Ernemont, fille illégitime, puis un garçon dont nous ne connaissons pas le prénom, mais qui s'appelait D'Andrézy, Jean, peut-être D'Andrézy, qui fut enlevé, kidnappé par la méchante comtesse de Cagliostro. Puis, en projet, le prince de Bourbon-Condé, Arsène de Bourbon-Condé, un projet qui n'a pas abouti. Et enfin, je ne le nommerai pas, autrement que par son titre, Son Altesse Royale, le prince héritier de Borostiri.
Et il faut peut-être ajouter à cette liste un certain Isidore Beautrelet qui, selon certaines découvertes, ne serait autre qu'un fils naturel d'Arsène Lupin, confirmation apportée par la psychanalyse, entre autres la lutte contre le père, lutte que mène Isidore Beautrelet contre Arsène Lupin, et sans doute lutte justifiée par ce complexe d'Édipe, l'amour d'Isidore Beautrelet pour Raymonde.
Peut-être quand même qu'il faut penser que certains, rares sûrement, auditeurs de France Culture, ignorent Arsène Lupin. Ils ont sûrement grand tort, vous allez leur dire pourquoi. Il faut peut-être d'abord faire un peu la genèse de ce personnage et dire comment il est né.
Comment il est né?
Qui est son auteur, d'abord?
Vous voulez dire comment il est né à la littérature?
Comment il est né à la littérature, alors, bien entendu.
Car je vous rappelle que pour nous, c'est un point de dogme que Arsène Lupin n'est pas un personnage littéraire, c'est un personnage réel.
Qui est né en 1874, si je crois bien.
Oui, nous sommes ralliés à la thèse de 1874. C'est l'occasion de schisme, d'ailleurs, interne dans notre société. Valère Cataugan, l'initiateur de toutes les études lupiniennes, s'est rallié, lui, à une autre thèse.
Est-ce que vous voulez maintenant nous présenter vos collaborateurs, ou du moins les amis qui travaillent avec vous à la rédaction de vos cahiers?
Eh bien, nous avons pu réunir ici d'abord notre rédacteur en chef, le grand, l'unique Jacques Aboukaïa, dont je m'empresse de citer le dévouement. Jacques Aboukaïa a refusé des ponts d'or que lui offrait la presse parisienne.
Non, oui, bien sûr, mais il était entendu que cela resterait confidentiel, je ne tiens pas...
Oui.
Ça se divulgue.
Bien. Et ensuite, un membre tout récent, mais extrêmement compétent de notre société, Jean-Patrick Imbert, dont les talents de dessinateur seront appréciés par tous nos lecteurs.
Amateur.
C'est lui l'auteur de notre prochaine couverture de la revue. C'est en outre, comme vous en apercevrez, un latiniste extrêmement distingué.
Bien, messieurs, avant de vous demander de nous parler de vos études, est-ce qu'on ne peut quand même pas aborder le plan plus vulgaire, si vous voulez, de l'apparition imaginaire de Lupin dans un certain nombre de livres signés Maurice Leblanc?
Oui, le phénomène Maurice Leblanc est beaucoup moins intéressant que le phénomène Arsène Lupin.
Parlons maintenant plus proprement des études lupiniennes. En quoi consistent ces études lupiniennes?
Elle consiste dans l'exaltation et dans la propagation du mythe de Lupin. Du mythe au sens noble du mot, bien sûr. Nous ne cherchons pas à répandre la lecture d'Arsène Lupin. Le livre de poche y pourvoit pour nous, ou les très belles éditions de luxe qui ont été réalisées ces dernières années. Par ailleurs, Lupin s'impose aux foules. Il a encore, aujourd'hui, un énorme succès populaire. Donc, notre mission n'est pas là. Notre mission, à nous, Société des études lupiniennes, est dans la connaissance scientifique d'Arsène Lupin.
Sur quelle base êtes-vous parti pour vous lancer dans cette connaissance scientifique?
Vous voulez parler des bases méthodologiques,
oui.
Peut-être. Eh bien, au début... nous avons choisi la méthode immanente. C'est-à-dire que nous avons considéré Arsène Lupin de l'intérieur. Nous ne nous sommes pas occupés du reste. Par la suite, la méthode a évolué. Nous sommes maintenant beaucoup plus structuralistes, en ce sens que nous faisons la part des apports extérieurs à Arsène Lupin. Par exemple, la part de Maurice Leblanc dans le thème, dans le mythe Arsène Lupin.
Alors, est-ce que vous voulez répondre à la question « Qu'est-ce que le mythe Arsène Lupin ?» Jean-Patrick Imbert ?
Tout ce qui constitue le mythe Lupin, c'est tout ce qu'apporte d'abord de fascination le personnage de Lupin lui-même. D'abord, c'est cette négligence, le romantisme qui imprègne tout le personnage de Leblanc, dans ses rapports avec les femmes d'abord, dans ses amours qui finissent toujours tragiques, soit que Raymond, à la fin de l'aiguille creuse, meurt tué sauvagement par Herlock Sholmes, soit qu'au contraire, l'une de ses bien-aimées se fasse religieuse, je ne me rappelle plus son nom, enfin... Enfin, c'est le côté désinvolte, grand seigneur, monocle, et en même temps très humoristique, très voleur, mais voleur bien-aimé d'Arsène Lupin. Je trouve ça fascinant. Et en même temps, tout ce qu'il y a de fascinant dans Arsène Lupin, c'est le côté énigmatique qui apparaît dans chacun des volumes. L'énigme à résoudre, le problème de l'aiguille creuse, le problème de 813, les 30 cercueils, et tous ces cryptogrammes à déchiffrer. Et en même temps, il y a le côté Dumas, enfin tous les passages secrets qu'on retrouve là-dedans. Enfin, c'est toujours le romantisme, je trouve.
Oui, et le panache. Je crois qu'il faut surtout insister sur cet aspect qui a malheureusement disparu des romans policiers qui sont venus par la suite et qu'on a guère retrouvé.
Oui, le saint est tout à fait inférieur à Arsène Lupin, qui descendant d'Arsène Lupin n'a pas du tout le même panache.
Oui, Jean-Claude Naguirard.
Vous parlez en ce moment du saint. Je vous signale que dans le prochain numéro, nous allons publier du célèbre auteur Michel Lebrun quelque chose qui s'appelle le guide Michel Lupin. C'est un guide qui recense tous les imitateurs d'Arsène Lupin. C'est un travail gigantesque. On ne peut qu'admirer l'érudition de Michel Lebrun. Songez qu'il cite des noms comme ceux du colonel Caoutchouc, dont personne n'a plus entendu parler depuis un bon demi-siècle, parmi les imitateurs d'Arsène Lupin. Et c'est un travail fascinant que nous allons livrer à l'admiration des foules.
Mais en quoi ce personnage vous paraît-il unique ? J'aimerais que vous reveniez là-dessus et que vous, chacun à tour de rôle, vous nous fassiez partager votre point de vue là-dessus. Est-ce que vos points de vue sont semblables d'abord ?
Vous avez prononcé un mot important, enfin, le mot d'unique. Justement, c'est un problème qui divise, enfin, ou qui a divisé jusqu'au dernier numéro tous les collaborateurs de la revue. Car on peut se demander, on a été obligé de se demander par les dates, enfin les différences entre les descriptions de Lupin, si Lupin était vraiment un seul et unique personnage. Il y a des différences de date quant à la naissance de Lupin, quant à la description, par exemple...
Est-ce que Lupin, vous voulez dire, n'est pas toujours semblable à lui-même,
voilà,
suivant l'un ou l'autre volume ?
C'est cela, et ce n'est pas seulement une question de déguisement. Et Jacques Bens, je crois, a résolu, enfin, de manière irrévocable le problème dans le dernier numéro, le numéro 2 de la revue des études lupiniennes, puisque la revue numérote, c'est numéro à rebours, en démontrant que Lupin n'était pas un, mais trois. Ils sont trois frères et pas des triplés. Et je crois, enfin, la démonstration de Jacques Bens est fondée sur des preuves scientifiques. Par exemple, il montre les signes commun entre les trois frères, le pouls qui bat uniformément à 70, la ride en forme de croix qui se forme au milieu du front quand ils réfléchissent profondément, et il examine également les différences, et ces différences sont très importantes. Il a abouti ainsi à la thèse des trois frères, et cette thèse, je crois, vient d'être confirmée, cette fois-ci de manière absolument irréfutable, par une récente découverte à propos du pseudonyme que prend Lupin à la fin de 813. À la fin de 813, Lupin se jette dans la Méditerranée et reparaît un chapitre plus loin, un ou deux chapitres plus loin, sous le nom de Don Luis Perenna. Perenna, deux mots sur Perennis éternel. Chez les Latins, Anna Perenna était une déesse, une nymphe qui s'était jetée justement dans un fleuve, le Numicius, d'où son nom d'éternel. Or, cette nymphe, Anna Perenna, était identifiée selon Ovide également à la lune. Or, la lune, pour les latins, c'est Hécate. Et Hécate était adorée sous le nom de triple Hécate et représentée toujours sous la forme d'une déesse à trois visages ou à triple corps accolé. Donc, Lupin a volontairement pris ce pseudonyme pour nous indiquer une manière, enfin, de concevoir qu'il était trois. Enfin, il nous a donné un exemple de sa trinité, un exemple caché, évidemment.
Est-ce que cette solution de Lupin en trinité vous paraît tout à fait satisfaisante et propre à résoudre tous les problèmes qui se posaient à vous pour la connaissance de Lupin ?
Elle me paraît irréfutable. Cela dit, elle ne résout certainement pas tous les problèmes qui se posent.
Quels autres problèmes se posent, par exemple ?
Ils sont multiples dans tous les domaines, mais je crois que Jean-Claude Denguirard sera beaucoup plus à même, avec l'érudition qu'on lui connaît, de résoudre, ou de répondre plutôt à votre question.
Oui, il y a un problème qui me semble capital. C'est celui de la disparition d'Arsène Lupin. Passé la période trouble des débuts de la Seconde Guerre mondiale, nous ne savons absolument pas ce qu'est devenu Arsène Lupin. Ou plutôt, nous ne l'imaginons que trop. Mais je ne voudrais pas entrer dans des considérations politiques d'une actualité brûlante.
Vous plaisantez en ce moment.
Je ne plaisante pas. Vous verrez dans le prochain numéro de la revue un article de notre très éminent collaborateur Quentin Mircu qui résout l'énigme de la journée que le général de Gaulle a passée, nul ne sait où.
En dehors de ces considérations sur les énigmes que pose Lupin, est-ce que on pourrait s'attarder sur l'aspect anarchiste du personnage ? Est-ce qu'il n'y a pas là une qualité qui fait que Lupin est très, très riche en énigmes ?
Oui, enfin, il y a un côté anarchiste, et en même temps contrebalancé par cette aristocratie que le personnage se donne, soit par ses pseudonymes, Cernine, le prince Rénine, et en même temps par son train de vie. Et d'autre côté, par son manière de vivre, enfin, il a l'air à cheval sur une société.
Je pense que le côté anarchiste est très important. Si on aborde le problème Lupin sous l'angle de Maurice Leblanc, il est à peu près sûr, comme on l'a beaucoup dit, que bien que les dates ne coïncident pas exactement, l'exemple de l'anarchiste Alexandre Jacob a dû, peut-être par prophétie, influencer Maurice Leblanc dans la création d'Arsène Lupin. Je pense que le phénomène anarchiste, et pas seulement Alexandre Jacob qui en est l'illustration la plus belle, la plus émouvante, le phénomène anarchiste a beaucoup influencé Maurice Leblanc lorsqu'il a décidé de parler d'Arsène Lupin.
Et alors, comme Jacob, Arsène Lupin est un voleur génial, le premier grand voleur scientifique. Mais c'est un homme qui a horreur du sang. Ça, c'est aussi assez important à souligner.
Oui, ces crimes sont rares.
Il y en a quand même quelques-uns.
Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, un ouvrage de Maurice Leblanc porte le titre « Les trois crimes d'Arsène Lupin ». Il y en aura quelques autres. Dans Le bouchon de cristal, Lupin est obligé de tuer un de ses complices
pour lui éviter la guillotine. D'ailleurs, l'ouvrage de Leblanc, Les trois crimes d'Arsène Lupin, en fait, ce ne sont pas de vrais crimes, ce sont des morts que Lupin n'a pas pu empêcher. C'est un suicide, une mort si l'étranglement de la coupable de 813 pris de folie, quoi. Lupin l'a étranglé, et une autre mort, je crois qu'il est arrivé trop tard aussi.
Oui.
Donc, il n'y a finalement qu'un crime excusable, enfin.
Légitime défense
est comparable à celui de l'étranger dans Camus, et encore.
Est-ce que dans les études lupiniennes, vous avez essayé de dresser un tableau de la situation de Lupin justement par rapport à la société, puisqu'on a parlé de son côté anarchiste. Quelle est la position de Lupin par rapport à la société dans laquelle il vit ?
Oui, une étude capitale a été faite à ce sujet par notre collaborateur Marcel Ovneau dans un des premiers numéros de la revue. Lorsque vous parlez société, vous entendez finance, bien sûr. Nous avons essayé d'évaluer les profits d'Arsène Lupin. Eh bien, dans les 20 volumes qui nous sont présentés, il est à peu près certain que Lupin ne réalise jamais aucun bénéfice. La plupart de ses aventures se soldent par un déficit pour lui. Il est vrai que nous ne connaissons qu'une part infime de ses aventures. Mais voyez la générosité d'Arsène Lupin, pas seulement sa philanthropie, les multiples dons qu'il fait à des personnes, à des individus. Voyez sa générosité patriotique, par exemple. N'oubliez pas que c'est Arsène Lupin qui a offert à la France l'Empire de Mauritanie, qu'il avait conquis par ses seules forces. C'est Arsène Lupin qui a négocié l'entrée en guerre décisive d'un allié en 1917, un allié que je ne nommerai pas, puisqu'il a fallu acheter par 300 millions en or versé par Arsène Lupin son entrée en guerre.
Et c'est lui qui a même failli rattacher l'Alsace et la Lorraine à la France. Je crois que c'est dans 813.
C'est dans 813.
Échec, enfin, malheureux.
Par quelle méthode ?
Chantage. Chantage exercé contre l'empereur d'Allemagne. Ou bien il divulguait certaines choses très compromettantes pour la famille de l'empereur d'Allemagne, ou bien l'empereur d'Allemagne lui rendait l'Alsace et la Lorraine. Malheureusement, pressé par le temps, Arsène Lupin, à l'époque, a dû se contenter de négocier l'abandon du Maroc par l'Allemagne. Vous savez ce qu'il en est devenu.
La revue des études lupiniennes tire à combien d'exemplaires, Jean-Claude Dinguirard ?
Un nombre variable, mais toujours inférieur à 100 exemplaires.
Pour quelle raison ?
Nous refusons absolument le dépôt légal. Rien de ce qui est légal ne nous concerne.
Vous allez publier votre dernier numéro. Jusqu'à présent, combien de numéros des études lupiniennes sont sortis ?
4 numéros, jusqu'à présent.
Depuis quand ?
Depuis 1967, exactement. À raison d'un numéro par an.
Comment a distribué cette revue ?
Par la poste.
À qui ?
À ceux qui nous en font la demande.
Comment vous en font-ils la demande ?
En nous écrivant.
Comment vous connaissent-ils ?
Eh bien, vous savez, le petit monde d'Arsène Lupin se connaît. Les membres de ce petit monde se connaissent.
Vous voulez dire que c'est une société quasiment secrète ?
Absolument pas, c'est une société ouverte, au contraire.
Mais non déclarée.
Mais non déclarée.
Pour quelle raison ?
J'avoue que nous n'avons pas vu l'utilité de la déclarer. Elle s'est chargée de se déclarer elle-même, en se faisant connaître.
Et puis quand on s'occupe d'un aussi bel anarchiste qu'Arsène Lupin, on ne va pas faire une déclaration à la préfecture du chef-lieu.
Pourquoi vous sabordez-vous ?
Pour des raisons diverses qui, en particulier, tiennent aux finances. Jusqu'ici, notre système de diffusion reposait sur la gratuité intégrale. Des mécènes mettaient à notre disposition le papier, les stencils, les illustrations. C'est une situation qui, avec les récentes modifications survenues dans notre pays, ne pouvait pas durer. Alors, nous nous occultons, peut-être pour un certain temps, peut-être pour toujours.
Comme Lupin.
Comme Lupin.
Voulez-vous nous présenter le sommaire de votre prochain et dernier numéro, par exemple ?
Le sommaire n'est pas encore complet. Je peux vous dire quand même que nous disposerons d'un certain nombre de collaborateurs extrêmement intéressants. D'abord, René Allot, puis Jacques Bins, puis Quentin Mircu. Maurice Dubourg, également, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, et qui est un des meilleurs connaisseurs de la littérature populaire. Quelques grands universitaires extrêmement connus. Je songe à Jacques Roland de Renéville, que je ne présenterai pas plus longtemps. Je songe
à André Lebois.
Oui, bien sûr, notre collaborateur de la première heure, André Lebois. Et puis, Michel Lebrun, dans son guide Michel Lupin. Jean Leclerc, l'animateur du fanzine Désiré, qui se consacre à l'étude des littératures populaires.
Qu'est-ce que c'est le fanzine Désiré ?
Le fanzine Désiré, c'est une œuvre colossale. Je vais vous lire son en-tête, et il se présentera de lui-même. Désiré, étude des illustrés, fascicules, livres et auteurs populaires, informations de collectionneur. Je vois le dernier numéro sous mes yeux, sous une très belle couverture, le titre « Qui est Nick Carter ?»
Et le siège social de Désiré, s'il a un siège social ?
Bien sûr, Désiré a un siège social. C'est chez Jean Leclerc, 125 boulevard de Charonne, Paris, 11e.
Probablement le sujet d'un prochain arcane.
Je le souhaite très fort. Je continue ma liste des collaborateurs. Nous avons des noms qui sont connus d'un peu tout le monde. Roger Guérand, par exemple. Ruy Lenoir, dont il fut question ici même, il y a quelque temps.
Mystérieux aussi.
Mystérieux, donc lupinien.
Bien que pataphysicien.
Parce que pataphysicien. Nous avons également des noms de collaborateurs plus familiers aux lecteurs de notre revue, mais moins connus sur le plan national. Je songe au professeur Coudert, je songe à Jacques Aboukaïa, je songe à Michel Costume, et un nouveau collaborateur, Ingmar d'Injust. Chacun sera capable de deviner l'anagramme de ce nom. C'est Justin Ganimard. Et ça n'étonnera personne qu'il publie enfin chez nous.
Et quels sont les thèmes principaux abordés dans les articles de ce dernier numéro ?
Ils sont extrêmement variés.
Est-ce qu'ils mettent fin aux études lupiniennes ou est-ce que les études lupiniennes sont ouvertes à l'infini pour de nouveaux chercheurs ?
Bien sûr, les ouvertures sont multiples, infinies même. Vous avez prononcé le mot qu'il fallait. Chacun est libre de prendre la succession des études lupiniennes. Comme le disait notre rédacteur en chef, si quelqu'un veut prendre la relève, je lui souhaite bien du plaisir.
La Société des études lupiniennes enfin a un hymne.
Oui, il s'agit de The Ganimard Story. Sa famille toujours avait été à l'aise, et dans tout le pays les voisins envieux grommelaient. Chez ces gens, il y a toujours de la braise. Faut vraiment croire que ces Ganimards ont du feu.
Refrain.
Attention, apache, voyou, voleur, bandit, filou, brigand. Jamais personne, impunément, n'a poussé Ganimard à bout.
Deuxième couplet.
Quand il était petit, il allait à l'école, et de l'instituteur, il faisait les délices. Tandis que ses copains prenaient des heures de colle, aux compositions, Ganimard avait 10.
Refrain, troisième couplet.
Un jour, on l'accusa d'avoir, dans la nuit grise, dérobé des bonbons. Inqualifiable horreur. C'était, il faut le croire, une horrible méprise, car jamais on ne vit Ganimard au piqueur.
Refrain, quatrième couplet.
Sa vocation naquit de cette calomnie. Son chemin depuis lors se trouve tout tracé. C'est pour ne pas laisser de crapules impunies que de chaussettes à clous, Ganimard est chaussé.
Refrain, cinquième couplet.
Très vite, on s'aperçut qu'il avait du talent. Sur ses dons de tireur, on lui fit des éloges. Dans la foule, au théâtre, il arrive souvent que sans hésitation, Ganimard tire au loge.
Refrain, dernier couplet.
Tous ses subordonnés sont fiers de leur patron. Faut les voir au complet les jours de grandes fêtes, défilés de la République à la nation. marchant d'un air martial, Ganimard tel en tête. Refrain. Attention, apache, voyou, voleur, bandit, filou, brigand, jamais personne impunément n'a poussé Ganimard à bout.
C'était Arcane 70, les études lupiniennes, par Roger Pillaudin, avec Jean-Claude Dinguirard, Jacques Aboukaya et Jean-Patrick Humbert. Première diffusion sur France Culture le 2 avril 1970. Vous pourrez télécharger cette émission durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.